À 19h04, un excellent début de semaine, un bon début de soirée avec nous. Dans quelques instants, Benoît Brunet nous fait part de ses commentaires. La nouvelle de Barry Trotz qui ne demeurera pas avec les Cavs de Washington. Et bien sûr, la transaction qui continue d'alimenter les discussions. Quelques jours du repêchage et on anticipe d'autres mouvements parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le début de bien d'autres changements. Le statu quo n'étant pas une option, nous a rappelé à quelques reprises Philippe Quentin récemment les propos de Jeff Molson. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Tu l'as dit, puis je t'ai lu aussi aujourd'hui, t'as pas envie de déchirer ta chemise sur cette transaction-là. Je te sens pas super enthousiaste, mais la confiance de bien des amateurs est ébranlée envers les dirigeants actuels, ce qui fait que chaque geste, chaque décision est accueillie avec un bon niveau de scepticisme.
Oui, tout à fait. Et celle-là, entre autres, je regarde les réactions un peu partout. C'est peut-être pas l'unanimité, mais disons qu'encore une fois, Marc Bergevin est jugé très, très sévèrement. Les gens semblent lui en vouloir beaucoup d'avoir laissé partir un des rares joueurs du Canadien qui est capable de marquer des buts. Mais moi, qui est capable d'être critique à l'endroit de Bergevin, et je l'ai été notamment beaucoup dans l'échange de Subban et dans ce que je considère beaucoup d'inaction de la part de Bergevin, alors que c'était clair depuis plusieurs années que c'est clair que son équipe manque carrément d'attaque, que ça cause des problèmes aux Canadiens saison après saison, puis on n'est pas capable de régler ce problème-là. En fait, c'est pire qu'on n'est pas capable de le régler, c'est que j'ai souvent trouvé qu'on n'acceptait pas que c'était un problème réel. Et ça, pour moi, c'est une erreur majeure, puis ça explique beaucoup des ennuis du Canadien. Alors, donc, théoriquement, je devrais, oui, un petit peu déchirer ma chemise suite à cet échange de Galchenyuk, mais non, pas du tout, parce que je suis pas convaincu que Galchenyuk que c'était une grande solution pour le Canadien à partir de la saison prochaine. Ce gars-là, Mario, a eu énormément d'occasions de s'imposer non seulement comme un bon joueur, mais comme un leader du Canadien. Tout à coup, là, quand t'es rendu avec un certain bagage dans la Ligue nationale, que t'es un joueur offensif, que t'as quand même eu des chances, puis je comprends qu'il a été balloté du centre à l'aile, là, puis que ça, c'est sûr que c'était le fait que la direction a pris autant de temps à se brancher sur sa position, ça aide pas. Mais lui-même, Galchenyuk, il aurait pu, à mon avis, occuper une part plus grande chez le Canadien. Il a pas réussi. Sous pression, en séries éliminatoires, tu te souviens, Claude Julien l'a très peu utilisé dans la série contre les Rangers de New York il y a 2 ans. Pour moi, c'est pas le joueur là, que tu dis « Voici là un gars qui va aider le Canadien à s'en sortir en 2018-2019, là, Galchenyuk qui va être un de ceux-là. » Moi, personnellement, je ne voyais pas ça. Alors, son départ me laisse, me choque pas outre mesure.
On peut comprendre le fait que Marc Bergevin et possiblement Claude Julien aient démissionné sur le gars. Et là où ça fait peut-être le plus mal, où on ressent cette transaction-là, c'est le fait que c'est un gars qui a incarné beaucoup d'espoir quand même quand on l'a repêché au troisième rang. Et c'est pour ça que je fais des petits rappels amicaux de temps en temps. Le prochain repêchage vendredi va pas tout changer là, du jour au lendemain sur une scène. Ça fait 6 ans qu'on l'a repêché, Galchenyuk, et 6 ans plus tard, bon, il y en a qui sont déçus qui partent, puis donc ils l'auraient gardé. Alors, comment ça va prendre de temps avant que le repêchage de 2018 nous aiguille sur un constat ou un autre?
Tu fais tellement bien de rappeler ça, Mario. C'est tellement un rappel essentiel, puis c'est sûr que là, tout le monde s'emballe. Là. On mentionne les noms des jeunes joueurs qui pourraient être choisis là, après Rasmus Dahlin, et puis là, tout le monde dit « Hey, lui, puis bon, on sait bien que ça va être long, que le développement va être long, que le succès sera pas instantané. Le Canadien ne repêchera pas un Austin Matthews, ne repêchera pas un Connor McDavid. Avec un peu de chance, il va repêcher un très bon joueur de hockey qui réussira une belle carrière dans la Ligue nationale et peut-être même qui sait une carrière exceptionnelle si les choses tombent bien en place. Mm-hmm. Mais il y a rien de garanti, bien sûr, ça, on le sait tous. Puis on le voit avec Galchenyuk, puis tu le dis, souvent les attentes sont démesurées. Peut-être qu'avec Galchenyuk, ça a été le cas. Ça faisait des années que le Canadien n'avait pas repêché un attaquant aussi haut au repêchage que ce fut le cas avec Galchenyuk. La dernière fois que le Canadien, avant le repêchage de 2012, avait eu un excellent choix, c'est l'année où ils ont plutôt opté pour un gardien, Carey Price. Alors là, les attentes étaient démesurées. Galchenyuk, souviens-toi, avait raté beaucoup de matchs en raison d'une blessure à la jambe sa dernière année junior. Puis là, tu sais, ah oui, mais s'il avait joué, ça aurait été extraordinaire et tout. Ben peut-être, puis peut-être pas non plus. Peut-être que oui, il aurait certainement eu une super saison, mais est-ce qu'il aurait pour autant eu une meilleure carrière dans la Ligue nationale? Je suis loin d'être convaincu de ça. Puis tout à coup, c'est beaucoup l'approche aussi. T'as des joueurs qui l'ont dit dans des bilans de fin de saison qu'il faudrait que Galchenyuk change un peu son approche du jeu. Puis ça, est-ce qu'il vraiment on pense qu'il l'aurait fait la saison prochaine? Est-ce qu'il aurait été un Galchenyuk capable de vraiment dire, hey, moi, je suis capable de prendre en partie cette équipe-là sur mes épaules puis d'être un leader à tous les matchs? Parce qu'au fond, c'est de ça dont le Canadien a besoin. Besoin de joueurs qui, tu sais, quand le directeur général nous dit à la fin d'une saison, Mario, moi, j'en reviens pas encore, là, une saison où t'as dans ton vestiaire, t'as Carey Price, qui est un vétéran, qui a gagné des médailles olympiques, t'as Shea Weber, qui a gagné des médailles olympiques, puis qui a bien fait, qui a gagné des médailles dans des Coupes du Monde, t'as Max Pacioretty, qui est capitaine de l'équipe, voté par ses coéquipiers, qui est dans la Ligue depuis un bon moment maintenant, t'as ces trois gars-là, puis là, le directeur général arrive, puis dit, hey, on a un problème d'attitude dans l'équipe, tu sais, c'est problématique, là, tu dis, coudonc, comment ça se fait? Alors, il y a probablement trop de joueurs qui n'ont pas pris sur eux d'être des leaders à leur façon, et pour moi, Galchenyuk est clairement un de ceux-là, pas le seul, loin de là, mais je regarde là, puis je me dis, coudonc, est-ce que c'est vraiment lui qui aurait pu vraiment donner, là, monter de pour reprendre l'expression consacrée, là, élever son jeu d'un cran, puis devenir le joueur tant redouté offensivement. Puis tu sais, sa saison de 30 buts, là, s'il vous plaît, mettons-les en perspective.
Fin de saison, club éliminé, voilà. La glace en masse, parce que
voilà. Système de jeu plus ou moins respecté.
Faut donner un petit bombe à un c'est public ça. En colère.
Amuser les gens.
Ben oui, ben
voilà.
Oui.
Voilà.
Là, alors c'était quoi? C'était de la vente d'espoir aussi, ça.
Ben,
mais
c'est
quoi? C'était sur des faux arguments. Puis ça les a rattrapés, puis ça les a affectés même.
Oui, exactement. Puis Pacioretty avait été pareil. Souviens-toi, il y avait une grosse fin de saison aussi. Mais c'est ça, c'est moi, des grosses fins de saison, là, quand l'équipe est à toute fin utile et éliminée, pour moi, ça n'a pas une grande valeur.
Veux-tu connaître un gars qui a eu une grosse fin de saison l'an passé? Max Domi. 18 points en 20 matchs.
Bon, son équipe était déjà éliminée. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner.
Penses-tu qu'il se préparait à l'échanger? Penses-tu qu'il se préparait à hausser sa valeur? Je serais curieux. Je vais l'examiner sur temps de glace des 20 derniers matchs.
Bonne question. C'est clair, hein, ça parlait depuis longtemps là, que semble-t-il que Domi était sur le marché. Mais moi, je pense que ce gars-là peut certainement aider. Écoute, c'est pas vrai. Moi, je ne l'ai pas vu jouer là, 1000 fois, Max Domi. Alors, je l'ai vu jouer occasionnellement un match des Coyotes par-ci, par-là, ou des extraits de match parfois. Mais bon, s'il est le joueur qu'on nous présente puis qu'il joue avec une énergie absolument incroyable, présence après présence, c'est sûr que ça va faire du bien aux Canadiens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait il y a eu un moment vraiment bizarroïde dans la conférence de presse de Marc Bergevin. Il faut que je te raconte ça.
Alors,
c'était samedi. J'y vais à la conférence de presse. Puis là,
est-ce que c'est un top 6?
Voilà, un top 6. Et je pense que c'est Martin McGuire qui lui pose la question de mémoire. Et là, t'as Bergevin qui reste comme silencieux pendant une ou deux secondes. Mais tu sais, dans une conférence de presse, ça fait toujours bizarre. Il a l'air d'y penser. Puis là, il se retourne puis dit, ben oui, 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 oui. Ouais. Alors, tu sais, j'ai pas trouvé que ça avait l'air super convaincant. Tu sais, si la réponse, tu sais, est-ce que c'est un top 6? Oui, définitivement, c'est un top 6. Puis non, là, ça aurait été très convaincant. Mm-hmm. Mais là, c'était comme, il pensait, il devrait être un top 6. Mais c'est sûr que quand tu as un attaquant top 6 qui est un ailier puis qui a marqué 9 buts la saison dernière, ça en dit long sur les faiblesses de ton équipe aussi. Mais j'ai juste trouvé que, bon, il nous a dit que oui, c'est un top 6, mais son niveau de certitude me semblait un peu aléatoire, disons ça comme ça.
Ça confirme aussi cette transaction-là que Marc Bergevin continue de chercher la même chose dans les joueurs qu'il va chercher. Si tu te rappelles, Andrew Shaw, Shea Weber, Max Domi, en tout cas, tu sais, bon.
Les intangibles, hein, il nous parle toujours. Ouais, il a encore parlé des intangibles.
Ouais,
tu sais, la conférence de presse de mi-saison, là, au mois de janvier, là, chez Weber, tu sais, bon, beaucoup de gens, il y a une des questions qui avait été posée. Hey, vous êtes allé chercher Weber, il était supposé régler ça, les problèmes, là, que, tu sais, d'une équipe qui manquait de maturité, puis tout ça, puis tu sais, il nous dit, ah oui, mais Shea, il apporte des intangibles. Alors, bon, ben, Shea, il devait apporter des intangibles aussi, puis là, Max Domi, on lui dit qu'il apporte des intangibles. Moi, j'ai hâte que tous ces gars-là apportent des points au classement aussi, là, pas seulement des intangibles.
Ben, on le souhaite, mais il reste que j'analyse aussi cette transaction-là avec une certaine réserve en attendant le reste du portrait là, de l'image de la photo d'équipe, parce que clairement, c'est un puzzle qui est en transition. Là. Il va y avoir d'autres changements importants au cours des prochains jours. Peut-être
il faut
même
l'espérer. Il faut l'espérer, parce que si c'est le seul changement, là, je pense pas ça annonce pas une saison prochaine très, très convaincante. Alors, il faut qu'il y ait d'autres changements. Je pense que cette équipe-là a besoin d'être brassée un peu, c'est clair.
Ben oui.
Tu sais, quand une équipe participe pas aux séries, quelle est à toute fin utile, éliminée, là, pas officiellement, mais tu sais, dès le début du mois de novembre, c'était pas mal clair que ce club-là s'en allait nulle part. Très mauvais départ. On n'a jamais senti une reprise en main sérieuse. Il y a eu des petits flashs par-ci par-là, là, en novembre, 2-3 victoires de suite, puis on s'excite un peu, on dit, hey, peut-être que la page est tournée, mais non, ça n'a jamais duré. Et donc, il y a des problèmes importants. Alors, dans ça, là, faut que tu bouges un peu ton équipe. Tu peux pas revenir au mois de septembre au camp d'entraînement, puis ce sont tous essentiellement les mêmes joueurs dans le vestiaire. Il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait une énergie nouvelle. Puis Bergevin, écoute, c'est le mandat aussi que lui a donné son patron, là. Son patron lui a dit, tu le mentionnais en ouverture de d'heure, mais tu sais, c'est ça. Quand ton patron te dit le statu quo, c'est pas une option, ben regarde, tu gardes pas le statu quo. Faut que ça bouge. C'est ça que le patron t'a dit de faire. Alors, je pense qu'il a raison aussi, Jeff Molson, de dire non, on peut pas rester avec le statu quo. Alors, Bergevin, lui, doit bouger. Maintenant, il faut espérer, comme tu le dis, qu'il y ait d'autres changements qui viennent apporter d'autres solutions à l'équipe. Alors, ça aussi, je pense qu'il faut se garder une petite réserve là, avant de juger trop sévèrement la transaction. Attendons de voir le portrait d'ensemble. Puis peut-être que dans ce, espérons-le, en partie nouveau Canadien, qu'un gars comme Max Domi s'intégrera bien. Il y a un autre facteur que je trouve important aussi. C'est que Marc Bergevin a dit qu'il avait discuté avec Joël Bouchard et Dominique Ducharme vendredi avant de faire la transaction. Alors, il nous a pas dit qu'il
côtoyé dans le cadre de la championnat du monde d'hockey junior.
Puis que les deux semblaient bon, enthousiastes. Alors, on verra, mais tu sais, au moins, il les a consultés. Ça, je trouve ça intéressant.
Ouais, c'est bien que tu l'amènes dans la discussion. Et on espère, puis ça c'est sûr, là, je sais même pas pourquoi je me pose la question, mais ça fait quand même 3 ans qu'il est passé dans les rangs juniors au championnat du monde d'hockey junior, et c'est dans 2 dernières années que son étoile a pâli en Arizona, alors que j'espère qu'on a aussi beaucoup de data, beaucoup d'informations sur ces 2 dernières années et pourquoi il a ralenti. Mm-hmm. J'ai vu entre autres les commentaires de Shane Doan, qui commentait le départ, puis c'est sûr qu'entre joueurs, il n'allait pas, l'écorcher, mais il a dit qu'il avait repris son... Il took a breath à sa deuxième année, tu sais, qu'il a repris son hollandais, tu sais. Mais c'est sûr, t'es dans un environnement perdant. Ça déteint peut-être négativement. Puis
ça, c'est très, très important ce que tu mentionnes, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, même des très, très bons, bien meilleurs que Max Domi, qui ont eu beaucoup d'ennuis à leur deuxième moitié. Souviens-toi de Nathan MacKinnon.
Tavares cette année, c'est pas un gars de deuxième année, mais excuse-moi, une crampe au cerveau, je te glisse dans la conversation. Pas une grosse année non plus.
Non, c'est ça. Ça arrive, puis tu sais, là-bas, bien sûr, le joueur, là, il est payé pour jouer puis performer, mais ça a peut-être été plus difficile dans cet environnement-là où, tu sais, cette équipe-là, on sait pas trop où elle s'en va exactement. Là, même pour les joueurs. Cette espèce de problème perpétuel, est-ce qu'ils vont rester là? Est-ce qu'ils vont avoir un nouvel amphithéâtre? Qui va être le propriétaire de l'équipe? Et tout, ça fait une organisation qui n'est pas très solide, très ancrée. Alors, ça peut, pour un jeune joueur, j'ai l'impression que ça peut ou ça favorise peut-être pas le développement. Cela dit, il ne faut pas virer fou avec cet argument-là.
Si je vais demander à Brière demain, Philippe, Daniel, qui a vécu en Arizona.
Je
vais lui demander.
Oui, c'est intéressant parce que ça n'a jamais été très solide en Arizona. L'histoire de cette concession-là, c'est justement le manque de stabilité. Et alors, moi, je pense que pour un joueur, c'est pas optimal. Mais cela dit, Domi, il aurait certainement dû faire mieux à sa deuxième et sa troisième saison. En revanche, quand tu regardes son total de points, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de passes.
Même moyenne de production par match, moins de buts, mais 0,63 points par match.
C'est ça, exactement.
Versus Galchenyuk, en tout cas.
Alors, tu sais, moi, je dis, dans ce cas-ci, la théorie de Marc Bergevin, là, ce qu'il nous a expliqué, c'est un changement d'adresse peut aider un joueur. Puis on l'entend souvent, cette théorie-là, dans le sport professionnel. Dans ce cas-ci, elle me semble limpide et correcte, cette théorie-là. Et c'est pour ça que je dis, laissons la chance aux coureurs avec cet échange-là.
Tu me permets de conclure avec une phrase que j'avais une couple de phrases en tête vendredi. J'avais la chanson « Burning Down the House » de... Vous vous souvenez de ça? Burning Down the House. J'avais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis j'ai l'impression qu'il classait Galchenyuk dans la catégorie des deux, tu l'auras. Puis qu'il pense que Domi va être plus quelqu'un moins nébuleux.
Ouais, puis tu sais, les relations aussi entre Claude Julien et Galchenyuk, ça n'a jamais semblé optimal non plus. Tu sais, quand le nouveau coach arrive en 2017, et puis dans la série éliminatoire, Galchenyuk, qui est supposé être ton attaquant vedette en devenir, est relégué au quatrième trio début des séries éliminatoires, tu sais, ça envoie pas un bon message, là.
Golf, golf, un petit peu de golf avant qu'on se quitte. Ouais. Dave Lévesque sera là tout à l'heure pour nous dire comment il a observé le US Open. Il y a eu une controverse samedi, la victoire de Koepka qui passe un peu dans l'ombre. Le terrain vole la vedette aux joueurs. Et ouais, controverse avec Phil samedi, t'as aimé ça?
Ah, je sais pas comment Dave a trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que ça a été, écoute, pour le spectacle, ça a été un week-end sensationnel. La journée de samedi, là, je me suis surpris à écouter des commentaires sur Golf Channel jusqu'à 23h le soir parce que ça commentait sur le terrain. Il y avait des entrevues avec les responsables de la USGA, avec des golfeurs, il y avait les analystes. Il y avait une controverse qui était vraiment très intéressante parce que le terrain samedi a changé pendant la durée de la ronde. Alors, tu as des joueurs comme Daniel Berger et Tony Finau qui sont ramassés parmi les meneurs. En fait, ils étaient les deux derniers à prendre le départ dimanche parce que samedi, ils ont eu un avantage incroyable. Ils ont joué tôt le matin. Et là, le terrain est devenu très dur en après-midi parce qu'ils n'avaient pas assez arrosé les verres et le vent s'est mis de la partie, donc ça a asséché les verres. Et là, ça roulait. Les joueurs n'étaient pas capables de faire arrêter leur balle. Alors, il y en a qui sont devenus très, très choqués, comme Phil Mickelson, qui a même couru après sa balle pour aller la frapper avant qu'elle stoppe sa course. Franchement, ça n'a pas été le meilleur moment de sa carrière. C'est un petit peu renversant de voir ça. Mais ça donnait un spectacle et j'ai trouvé que hier, dimanche, ils sont revenus avec un terrain qui a permis de voir des exploits, des beaux coups, des birdies. Alors, ils ont quand même bien rectifié le tir, mais ça donnait un tournoi dont moi, personnellement, Mario, je vais me souvenir très longtemps, bien plus longtemps que d'un autre US Open où il n'y aurait rien eu de ça.
Ben, écoute, fort intéressante ton analyse. Philippe. Et Dave, lui, pense que peut-être des gars qui se sont comportés comme des enfants gâtés, peut-être.
Ouais, intéressant.
Je te laisse là-dessus.
OK, salut.
Et avec le souvenir musical que j'avais vendredi quand j'ai pris connaissance de l'échange. Bye-bye.
Salut.
À bientôt mercredi, Philippe. On revient avec Simon King dans quelques instants et Benoît Brunet.